la réconciliation. Celle-ci est au cœur du message de l'Évangile. Comme le souligne Paul, encore dans sa seconde épître aux Corinthiens, où il dit ceci: « Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. » La réconciliation, tout comme le pardon des péchés en Christ, se trouve ainsi au cœur de la foi, et même, si on peut oser le mot, de la théologie chrétienne, digne des évangiles. Une évidence. Comme le laisse entendre ce texte de Colossiens que nous venons d'écouter. La réconciliation dans les évangiles concerne bien évidemment et avant toute chose notre relation avec Dieu. Mais cette réconciliation dépasse de loin notre relation avec Dieu. Cette réconciliation concerne tout, comme le dit notamment ce texte de Colossiens. Ainsi, être réconcilié avec Dieu signifie aussi vivre cette réconciliation avec l'autre. La réconciliation, celle que nous avons reçue une fois pour toutes, par grâce, en Jésus-Christ, elle doit aussi prendre forme dans notre existence. Pas seulement pour un instant, mais dans notre vie de tous les jours. Vivre cette réconciliation au sein même de la famille de Dieu, qu'est l'Église, est pour sûr un chemin difficile, un chemin fait de blessures, mais un chemin qui révèle plus encore aussi nos faiblesses, peut-être même notre immaturité dans notre cheminement avec le Seigneur, car nous sommes tous en marche. Regardez à quel point il nous est encore parfois difficile d'admettre, et j'espère ne choquer personne, qu'un homme ou une femme ayant grandi, or il est plus facile de viser loin, dans l'Église catholique, est un frère ou une sœur comme un autre. Nous avons la dent dure, il nous est même très facile de trouver un quelconque prétexte, notamment théologique, au sujet de leur foi qui serait moins droite que la nôtre. Mais au bout du compte, quand nous réfléchissons ainsi, que faisons-nous? Nous ne faisons que mépriser cette autre personne, cet autre frère, cette autre sœur que Christ a racheté, et ce n'est pas à nous d'en décider. Revenons sur cette évidence. Les évangiles font une priorité de la réconciliation. Vivre au concret cette réconciliation au cœur de cette famille que le Père nous a offerte est une priorité à laquelle nous exhorte le Fils. Une priorité qu'il évoque notamment par ses mots dans l'évangile de Matthieu, toujours dans ce chapitre 5, au verset 23 et 24. Je vous les lis. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. Dans les versets du sermon sur la montagne, qui précède ces quelques versets que nous venons de lire, Jésus ne s'arrête pas à l'interdiction du meurtre. Il exprime la volonté divine, celle de protéger l'autre de ma violence. Non pas de ma violence physique qui porte atteinte seulement à l'intégrité de cet autre, mais aussi à l'intégrité morale, psychologique. Et même plus encore, à l'honneur de ce frère ou de cette sœur, de mon prochain. Mais ici, dans les versets que nous venons de parcourir ensemble, Jésus va encore au-delà. Il nous invite non pas à rester dans une forme de statu quo avec le frère, qui pourrait donner un peu ceci. Tiens, la dernière fois que l'on s'est vu, lui et moi, il ne m'a pas salué. Il m'a même regardé un peu bizarrement, pas comme à son habitude, comme s'il y avait quelque chose entre lui et moi. Bon, c'est sûrement rien après tout, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien vu. En tout cas, ça ne vient pas de moi. Que lui aurais-je donc fait ? On ne peut rester sur un tel constat. Le Seigneur, ici, quand on l'écoute, nous pousse à chercher la véritable réconciliation. Quand il nous explique qu'il est plus important d'aller se réconcilier avec son frère que de vouloir offrir un sacrifice à Dieu, il nous montre ici quelle doit être ma priorité dans ma piété, dans ma vie spirituelle, si vous préférez. Dit autrement, cela ne me sert à rien de venir louer le Seigneur et de vouloir lui être agréable, car sinon je ne vaux pas mieux que Caïn, qui lui est tombé dans le piège, plein pot, et même allé très très loin. Bien au contraire, le Seigneur nous demande, à l'image de cet Hébreu, qu'il cite comme ça dans son exemple, qui venait d'arriver à Jérusalem pour offrir un sacrifice. Et cela lui avait demandé déjà plusieurs jours de marche, certainement. Il lui demande de repartir au village, de faire le voyage du retour, et d'aller même trouver celui qui a été offensé, celui qui a quelque chose contre lui, même s'il ne sait pas exactement ce qui est mis en cause ici. Par cet exemple que le Christ nous donne, il nous montre l'absolutisme de la volonté divine, de cette réconciliation qui doit nous caractériser. Dans l'exemple, jamais il n'est question d'avoir quelque chose contre son frère, mais bien d'aller se réconcilier avec son frère, qui lui, par contre, a quelque chose contre moi. Même si je ne vois rien de particulier à me reprocher à première vue. Dit d'une autre manière, Christ nous invite à ne pas négliger l'autre, ce prochain, ce frère, cette sœur, qui a encore quelque chose contre moi. Il m'invite surtout à ne pas rester dans l'idée que ma relation à Dieu n'est en rien affectée par ma relation aux autres. S'il y a de l'inimitié entre moi et mon prochain, ma louange, mon sacrifice, toute ma piété n'a pas grande valeur, voire ne vaut rien. Et mieux vaut même ne pas l'offrir à Dieu maintenant, car cela ne lui sera pas agréable. Il me faut d'abord aller vers l'autre, vers celui que j'ai offensé, pour goûter à la réconciliation avec lui, la vivre, et ensuite de pouvoir retourner à la réconciliation avec le Père qu'il m'a déjà offerte. Vivre la réconciliation n'est pas chose évidente. Il y a même différents pièges. D'un côté, du côté de l'offenseur, de celui qui a commis quelque chose, peut-être même inconsciemment, il a déjà une première responsabilité. Et Jésus souligne toute l'importance de la réconciliation, qui doit ou devrait être l'une des plus belles caractéristiques de notre identité nouvelle en Jésus-Christ. Voilà donc l'importance de la réconciliation. Voilà quelle est sa place, tout simplement, au cœur de notre vie de foi, au cœur de notre piété. Car il y aurait danger à vouloir séparer notre relation à Dieu avec celle de mon prochain. Avec Dieu, moi, je m'entends bien. Mais avec vous, j'exagère. Mais alors, comment y parvenir ? Le chemin vers la réconciliation nous semble parfois si ardu, si difficile, même si douloureux, voire encore plus semée d'embûches, que l'on peut y renoncer par découragement, par peur même de s'y blesser davantage avant d'être parvenu à son but. Comment donc parvenir à la réconciliation? Là encore, une évidence. Une évidence, me direz-vous. On pourrait le formuler ainsi. Il suffit à l'offenseur de se repentir. Quoi de plus simple? Se repentir, oui. Mais attention à la façon avec laquelle nous venons vers la personne que nous avons blessée quelque part. Si je l'ai fait, je ne peux venir vers l'autre avec un esprit calculateur, avec même une attente certaine de recevoir le pardon en échange de ma repentance. Qu'est-ce qu'une repentance alors? Une repentance sincère ne violente pas la personne en lui disant « Mais tu vas me pardonner ?» Bon, j'exagère, là encore. Mais parfois, il y a quelque chose de cette attente-là que nous avons. Au contraire, la repentance, elle attend avec humilité, avec amour le pardon de l'offensé. Exiger d'être acquitté de la part de l'offensé montre chez nous, si nous sommes dans cette logique-là, une incompréhension du réel chemin à parcourir quand nous avons offensé. Venir avec cette ambition folle trahit même un esprit de repentance très superficiel, tronqué, égoïste, qui attend juste de satisfaire notre propre bonne conscience et méprise même l'autre que j'ai déjà blessé en ne lui donnant même pas la liberté de me pardonner. Chercher, demander le pardon, se repentir n'a rien d'une négociation. Ne se base pas sur une logique du donnant-donnant. Je t'offre ma repentance, mais t'as intérêt à m'offrir ton pardon, sinon gare à toi. Et parfois on fonctionne un peu comme ça, peut-être plus subtilement. Cela n'est pas œuvrer à une véritable et sincère réconciliation. C'est tout simplement, si nous étions dans cette logique-là, se persuader d'avoir bien fait. Moi, j'ai fait mon boulot. Maintenant, à toi de voir. C'est quelque part même ignorer l'autre et chercher avant tout sa propre satisfaction. J'ai fait le boulot. Maintenant, c'est ton problème. C'est toi le fautif. La vraie repentance, la sincère demande de pardon est une demande. Une attente qui soupire humblement après le pardon, qui respecte la liberté de l'autre, qui ne contraint pas l'offensé. Le pardon vécu en Christ est et demeure pour toujours une grâce. Demander pardon, c'est attendre la grâce de l'autre. Il n'est en rien quelque chose que l'on peut aller arracher à l'autre. Regardons un peu de l'autre côté, là aussi où il peut y avoir piège. Du côté de la personne qui, elle, au contraire, a été blessée. Pour autant, et parce que notre pardon se doit d'être à l'image de ce que le Christ a fait pour nous, c'est-à-dire un acte d'amour immérité, nous ne pouvons indéfiniment le refuser à celui qui nous a blessés ou offensés. Offrir son pardon à autrui, pardonner, c'est exprimer notre besoin de la grâce divine. C'est répondre aussi à cette exhortation du Seigneur qu'il nous donne, un peu plus loin, toujours dans l'évangile de Matthieu, à la suite même de cette prière que vous connaissez pour beaucoup, le Notre Père. Voilà ce qu'il dit. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est une parole dure. Refuser son pardon à l'autre revient comme à déclarer que nous pouvons nous aussi nous passer du pardon divin. C'est globalement ce que dit Jésus ici. Ou encore, c'est agir à la manière du frère du fils prodigue. J'ai bien dit le frère, hein, pas le fils. Le frère du fils prodigue, qui lui, quand il voit son père dans la joie de retrouver son fils, refuse la grâce qu'offre le père à l'égard de ce frère qui était parti faire les 400 coups et qui, après s'être rendu compte de son égarement, est revenu chercher la grâce du Père. En résumé, c'est ne pas ou ne plus comprendre la grâce de Dieu à notre égard, de l'oublier, une folie. Voilà ce qu'est ne pas pardonner. Nous, j'aime pas les histoires de clans, mais on va en jouer un tout petit peu encore. Nous qui sommes fiers, pour une grande majorité ici, je sais pas si je parle pour tout le monde, d'être protestants, avec toute l'histoire qui s'ensuit, toutes les réformes qui ont eu lieu, dont nous nous faisons plus ou moins les héritiers, avec plus ou moins de justesse. On est un petit peu orgueilleux, on aime se féliciter de certaines choses. Bon, on n'est pas parfait. Hein. Mais nous nous félicitons de défendre et de mettre l'accent sur la réconciliation nécessaire entre l'individu et Dieu. Ça, nous aimons le dire. Mais nous avons quand même tendance à le faire d'une manière trop exclusive, au point que nous avons négligé l'importance de la réconciliation au sein de nos églises locales. Quand je viens au culte, moi, je me sais réconcilié avec Dieu. Et c'est bon, rien de plus. Soyons honnêtes, il nous arrive de négliger ce fruit, cette réconciliation, ce fruit qui découle de l'œuvre de Jésus-Christ. Et faites, bon, c'est un peu caricatural, mais regardez à quelle vitesse nous multiplions, surtout nous les évangéliques, allez, on reste vraiment en petit groupe là, à quelle vitesse nous multiplions nos mouvements d'église. Presque tous les ans, il y a un petit mouvement d'église qui naît. Et très souvent, ces mouvements récents, peut-être parfois même très tendance, bon, pas toujours quand même, sont malheureusement pour certains liés à des divisions, à des désaccords, qui trahissent quelque part notre immaturité, notre manque d'amour, notre incapacité à vivre cette réalité qui fait normalement notre identité. De savoir nous réconcilier, de savoir pardonner, ou de savoir se repentir. Tout dépend de quel côté on se place. Et même des églises disparaissent à cause de cela. La petite église d'où je viens, je ne vais pas m'étaler trop là-dessus, parce que ça me touche beaucoup, et j'en souffre quelque part encore, parce que ces gens-là, je les aime beaucoup. Là-bas, à Morlaix, ont vécu plusieurs temps de discorde. Et à chaque fois, beaucoup de gens de la communauté partaient. Mais ils partaient sans avoir eu le temps de se réconcilier avec les autres. Parfois, partir est nécessaire. C'est vrai. Même si c'est regrettable. Mais partir sans se réconcilier prive les deux personnes, celle qui est partie et celle qui est restée, de pouvoir vivre cette réconciliation, de pouvoir goûter à ce pardon-là. Et après, on vit dans cette amertume-là. Et quand ça se vit vraiment à l'échelle d'une église, les membres se raréfient, l'église même parfois vieillit, et peut-être dans 5-6 ans j'apprendrai que cette église-là, après plus de 170 ans d'existence, sera morte quelque part. Nous sommes corps du Christ. Ça, nous savons le dire. Nous sommes famille du Dieu très haut. Ça aussi, nous savons le dire. Nous avons besoin de le vivre, et nous le vivons. Mais nous ne sommes surtout pas un rassemblement d'individus sauvés et convertis, tous chacun séparément, chacun dans sa petite bulle. Parfois, on est un peu comme ça quand même. Et si d'un côté, le pardon efface la faute, de l'autre côté, la réconciliation nous invite à cheminer plus loin encore avec l'autre. Le pardon en soi ne se suffit pas. Et si Jésus nous a pardonnés, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. Le pardon est important. Et le but en soi, l'œuvre du Christ, c'était nous réconcilier avec Dieu, avec son Père. Que la colère que le Père avait contre nous puisse être apaisée, pour que nous puissions entrer dans cette relation nouvelle avec lui, goûter vraiment à son amour, et nous-mêmes pouvoir commencer à vivre cet amour avec lui. La réconciliation nous invite à cheminer plus loin, encore avec l'autre, comme je l'ai dit avant, car elle supprime définitivement l'inimitié entre moi et l'autre. Tout simplement, elle rétablit la relation. Vouloir vivre le pardon sans réelle volonté de déboucher sur la réconciliation peut là encore trahir une forme de pardon incomplet qui ressemble davantage à une recherche un peu égoïste et personnelle de libération de nos ressentiments, juste pour trouver soi-même une petite paix. Non, le pardon vise et doit déboucher sur la réconciliation. Une restauration pleine et entière de la relation. De savoir enfin redire à la personne quelque part avec nos propres mots « Je t'aime ». Ici, j'accentue beaucoup par rapport à ce que le Seigneur dit lui-même et les apôtres, et notamment Paul, dit pour le peuple de Dieu, mais on peut l'élargir à d'autres sphères, je pense à la famille, que ces gens-là connaissent ou pas le Seigneur, mais ça en fait partie. Nous avions entendu hier, la semaine dernière, Michael, qui parlait de sa relation avec sa propre mère. Je suis persuadé, moi le premier, j'en suis aussi touché, que parfois aussi dans nos familles, il y a là encore chez nous une immaturité qui nous empêche d'arriver à nous réconcilier parfois avec ces gens qui nous sont proches, que nous aimons et que nous n'arrivons plus vraiment à aimer. Je voudrais juste citer un bonhomme que j'aime beaucoup, qui m'a aussi beaucoup agacé, mais pour d'autres choses. Là, peut-être aussi un de ces jours, j'aurais besoin d'aller le voir. C'était mon ancien professeur de Nouveau Testament, que j'ai eu l'occasion de voir pendant 4 années pleines, et qui m'a beaucoup appris. Mais il dit une chose qui me plaît. Il dit ceci, « Le vrai pardon est un acte dynamique. » Ça en dit long. Bon, lui-même est très très dynamique, c'est une pile. Il est très fatigant pour ça d'ailleurs. Mais je continue de le citer. Voilà ce qu'il dit. « Il entraîne celui qui l'octroie vers l'offenseur et le conduit à voir en lui une victime du péché. » À qui il veut venir en aide. Voilà pourquoi nous sommes invités à pardonner, même si cela peut nous être très difficile. Pardonner en vue de la réconciliation m'invite tout simplement à regarder l'autre comme le fait déjà le Christ avant moi. Avoir en lui une personne victime du mal, mais pas seulement, à l'aimer aussi. Vivre la réconciliation, c'est voir cesser cette inimitié qui se dressait un peu comme une barrière. Mais c'est aussi donner place à l'apaisement de la colère de la personne blessée. afin de restaurer et renouveler, même si ce sera autrement, la relation qui a été perdue. La réconciliation, cette réalité, cette évidence qui est présente normalement au cœur de notre foi chrétienne, fait partie de notre identité. Je l'ai déjà dit. Hein. Elle est aussi au cœur de certains gestes importants dans notre vie de foi, dans notre piété, et notamment d'un geste que nous allons vivre à l'instant. Car elle s'exprime aussi à travers le partage du repas du Seigneur, de cette scène que nous rappelons, que nous célébrons ensemble. Et pour cela, justement, nous venons à ce temps de scène et je vous invite à écouter quelques versets que nous avons certainement déjà entendus plusieurs fois, qui se trouvent dans la première, épître aux Corinthiens. Alors, pardonnez-moi, je crois que j'étais au mauvais chapitre. Voilà. Ah. Écoutons l'apôtre Paul. Donc, pour ceux qui ont leur Bible ouverte, c'est en 1 Corinthiens 11, et je vais commencer à partir du verset 23 pour m'arrêter un peu plus loin. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors ils mangent de ce pain et boivent de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Ce texte, nous le connaissons, nous savons que c'est l'un des textes typiques qui annonce le repas du Seigneur. Mais avec toutes les particularités liées à l'église de Corinthe que Paul y rajoute après, au vu des grands problèmes qui sont vécus dans cette église. Mais rappelons-nous l'exhortation que Paul donne à la suite. L'apôtre, quand il s'exprime ainsi, nous invite non pas à venir devant cette table, devant ce repas auquel nous sommes invités, à venir sans souillure devant Dieu. Mais il nous exhorte de veiller à notre réconciliation entre frères et sœurs dans l'Église avant de se présenter à la table pour le repas. Il n'est pas question d'être parfait, de n'avoir rien commis depuis peut-être la semaine passée. Ce n'est pas du tout ça le propos de Paul. Mais simplement de vouloir venir à cette table, dire ma communion, mais de m'être assuré que cette communion, ce n'est pas juste du vent, que c'est quelque chose de véritable. Nous qui nous savons pécheurs, qui sommes au bénéfice de l'œuvre à la croix de Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui a apaisé la colère du Père à notre égard alors que nous l'avions offensé, maintes fois même. Il nous a réconciliés. Vous tous qui êtes réconciliés avec le Créateur, vous êtes aussi invité à prendre ce repas. Dans la liberté de votre conscience, ne vous privez pas de participer à ce repas symbolique. Et plus encore, que ce repas soit pour vous, pour chacun d'entre nous, une occasion qui nous invite chacun à pardonner, ou à ne pas refuser le pardon d'autrui, à gagner l'autre, à compter sur la grâce de Dieu pour vivre la réconciliation à laquelle peut-être il nous appelle ce matin. Nous allons prendre ce repas dans le silence, un silence où nous pouvons nous recueillir, où nous pouvons aussi prier à haute voix, ou si nous ne voulons pas être écoutés, nous pouvons prier intérieurement, mais Dieu nous entendra.